Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Le 23 septembre 2019, à l'ONU, devant des dirigeants du monde entier, Greta Thunberg a 16 ans. Après avoir parlé du désastre écologique sur le plan mondial et avoir convoqué des données précises pour rendre son discours irréfutable, elle aborde l'objet de son combat sur un plan plus personnel. Elle dit ce que son enfance aurait dû être et n'a pas été à cause du public qui lui fait face. Des personnes plus âgées qu'elle, à l'évidence, qui n'ont dans leur enfance pas souffert de cette angoisse écologique qu'elle décrit bien.
How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones.
À l'opposé d'une enfance peuplée de rêves et d'illusions, d'une jeunesse innocente ou prétendue telle, celle de Greta a été rendue invivable, dit-elle, par la réalité des menaces climatiques qu'elle a comprises dès son plus jeune âge. « Je fais pourtant partie de ceux qui ont de la chance », ajoute-t-elle, bien consciente de ne pas mourir de faim ou vivre dans une dictature. « Mais des gens souffrent », continue-t-elle.
« People are suffering, people are dying. » Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
À la tribune de l'ONU, son discours est un réquisitoire, une mise en accusation d'une génération par une autre, qui lui demande d'agir, certes, mais aussi la reconnaissance d'une sorte de préjudice moral, d'angoisse de l'effondrement. En octobre 2020, d'ailleurs, en France, un sondage YouGov pour le HuffPost indique que 51% des personnes interrogées développent une véritable angoisse quand ils songent aux conséquences du réchauffement climatique. Et que le chiffre s'élève même à 72% chez les 18-24 ans. L'effondrement et moi, c'est une mini-série en 4 volets sur la façon de vivre la crise climatique à la première personne. Les solutions, les compromissions, ce qu'il faut transmettre aux enfants ou pas, comment gérer leurs angoisses et les nôtres, comment agir, bien sûr. Pas exhaustive et très subjective, cette série est signée Karine Lelouette et en voici le premier épisode.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ça a commencé en juillet 2019, vers minuit. Cette nuit-là, il fait 33 degrés sous les toits de mon appartement. Mon fils de 4 ans dort, allongé sur le dos. Je le regarde, et dans mon ventre, il y a une frousse qui fait son chemin. Jusqu'à devenir bien trop grande pour moi. 42 degrés prévus demain à Paris, et après. Est-ce que dans 20, 30 ans, on aura des étés à 50 degrés? Est-ce qu'on finira carbonisé, affamé et assoiffé? Quand les champs seront grillés et les rivières asséchées? C'est peut-être un peu exagéré, ou complètement ridicule. Mais cette nuit-là, les questions tournent en boucle. Et honnêtement, c'est pas tellement aux ours polaires ou à la submersion des îles du Pacifique que je pense. Mais plutôt, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour sauver ma peau et celle de ma famille? Aménager la cave? Déménager à la mer ou à la montagne? Ou installer la clim dans toutes les pièces pour dormir au frais? On polluera un max, mais au moins, on en aura bien profité avant la fin du monde.
Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo 10 conseils. Comment bien dormir l'été quand il fait vraiment très très chaud. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de mouiller vos poignets. Donc, vos poignets, c'est ici.
C'est pas sûr que ce soit sur internet que je trouve des solutions pour la prochaine canicule.
Deux gants de toilette. On va donc mouiller avec, si possible, de l'eau froide. Et on va donc enfiler nos pieds dedans, tout simplement. En gros, on va se faire des chaussons humides. Voilà.
Autre petite astuce à 10 euros, vous fabriquez vos propres rideaux thermiques avec des couvertures de survie. Hein.
Bonjour tous les amis des lapins, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais ici il me fait une chaleur insupportable. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger nos lapins de la chaleur. Malheureusement, nous ici on n'a pas la clim, donc l'idéal c'est sûr c'est d'avoir la climatisation à la maison.
Avant de faire de la radio, je travaillais pour Terra Eco, un magazine qui parlait d'environnement. On écrivait sur la sécheresse en Inde, les morues qui disparaissaient dans les eaux froides de Terre-Neuve, les Maldives qui prenaient l'eau. Mais ça semblait confortablement loin. Et puis, on peut pas dire qu'on déprimait à Terra Eco. Tous les 2-3 ans, on partait couvrir les conférences sur le climat.
Salut, on est à Copenhague pour le sommet sur le climat. On va sauver la planète, évidemment.
Ici, ces grands raouts internationaux censés sauver l'avenir de la planète. On croisait Barack Obama et Arnold Schwarzenegger. On mangeait des sandwichs aux légumes de saison bio. On dormait sur les canapés des salles de presse. Ça durait 15 jours. Et c'était un peu notre colonie de vacances à nous.
On prévoit le temps à 2 ou 3 jours. Prévoir le climat dans un siècle, c'est une imposture.
Même les absurdités des climato-sceptiques nous paraissaient plutôt ridicules que dangereuses.
Vous avez vu un réchauffement ? Il fait de plus en plus froid.
Si vous vendez une religion, et à vous entendre, on devrait plonger dans la guerre civile, on devrait mettre des millions d'emplois en danger, si vous voulez, parce que l'apocalypse nous guette. Eh bien, excusez-moi, vous pouvez rire, vous pouvez...
En tout cas, à l'époque, c'était plutôt rigolo et joyeux. Enfin, moi, je le vivais comme ça. Le magazine a disparu en 2016. Pas assez de lecteurs. C'était moins drôle. Je suis partie travailler ailleurs et ma vie a continué, tranquille, en ligne plus ou moins droite, entre mon compagnon et mes 2 enfants.
Tu m'aides à mettre la table ? Émile, tu m'aiderais ?
J'ai mis le temps. Mais 3 ans plus tard, quand le thermomètre a atteint 42 degrés à Paris, l'angoisse m'a rattrapée. Il était là, le réchauffement climatique, devant ma porte. C'est égoïste comme réaction. C'est idiot aussi. Parce qu'au fond, un seul épisode caniculaire ne prouve rien. Je le sais. Mais c'est quand même comme ça que ça a commencé. Par des bouffées d'angoisse, le soir surtout. J'avais la sensation effrayante de voir fondre la calotte glaciaire comme un vulgaire glaçon dans un verre d'eau. Assorti de visions apocalyptiques, d'un futur étouffant de chaleur, où on vivrait enterré dans des grottes ou serré dans des coins de montagne. Et ça m'a paralysée.
Si on s'y met pas maintenant, c'est foutu. Mais c'est déjà maintenant, on voit que l'édifice est en train de craquer de partout.
Le pire, c'est quand j'entendais des chercheurs parler d'effondrement ou de collapsologie. Cette théorie qui explique que tous nos systèmes sont interconnectés et qu'ils menacent d'un coup de s'effondrer. Qu'on risque la banqueroute, la faim, la guerre, et sans doute pas dans longtemps. Bref, que c'est la fin du monde.
Une catastrophe.
Alors j'ai arrêté de lire ou d'écouter quoi que ce soit sur le sujet. Et pour le reste, j'ai pas fait grand-chose. Évidemment, j'ai continué de trier consciencieusement mes déchets. J'ai pas pris l'avion, mais honnêtement, c'est surtout parce que j'en ai pas eu l'occasion. Si, j'ai arrêté de manger de la viande, il y a quelques mois. Parce que pour élever des bêtes nourries au soja brésilien, il faut défricher des forêts, utiliser des tonnes de pesticides et pomper des litres d'eau. Là aussi, j'ai mis le temps, mais ça a quand même fini par me faire passer le goût du steak haché. Et puis, je passe ma vie à culpabiliser sur tout. Le concombre que j'achète en novembre, parce que c'est un des seuls légumes que mes enfants tolèrent. La montagne d'emballages qui déborde de la poubelle, parce que les céréales en vrac c'est bon, mais c'est souvent plus mou. Et je culpabilise de culpabiliser. Est-ce que c'est pas un dilemme de bobo parisien de se fendre le cœur en deux parce qu'on a commandé un jouet en plastique ? Ou qu'on a mis un masque jetable au lieu d'un lavable ? Est-ce qu'en ce moment les gens ne craignent pas plutôt de perdre leur emploi, leur maison ? Ou de mourir du coronavirus ? Pendant que je rumine en mangeant mes lentilles, mon compagnon boulotte sans arrière-pensée ses chipolatas. C'est peut-être une question de nature. En tout cas, lui, il trouve qu'on en fait déjà pas mal en tant que famille.
On n'a pas de goût de luxe déjà, ça aide beaucoup. Et on ne prend pas l'avion tous les jours. Voilà, c'est rare, peut-être une fois tous les 2 ans, quelque chose comme ça, peut-être 3 ans. Et aussi, on n'a pas de voiture nous-mêmes, mais à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux faire en tant qu'individu. En fait, le plus important, c'est de voter pour les bonnes personnes qui vont implémenter au niveau national et international les bonnes règles pour qu'on commence à s'en sortir.
T'es pas angoissé, toi ?
Tu peux pas être angoissé parce que sinon, tu peux pas vivre. En fait, ça n'a pas la peine d'avoir peur. Pourquoi avoir peur ?
Évidemment, il est très conscient du réchauffement climatique et de ses conséquences. Mais il ne croit pas à l'idée d'un effondrement soudain, brutal.
Ben moi j'ai peur.
Oui, mais soit tu combats dans une guerre et t'as peur, soit t'as pas, mais tu pourras toujours arriver à la même victoire.
Sauf que moi j'ai peur quand même. Et je ne fais pas grand-chose pour changer le monde. Mais surtout, cette angoisse-là, j'ai la trouille de la transmettre à mes enfants. donc j'insiste pas trop. Je leur ai même pas vraiment expliqué à mes fils pourquoi j'arrêtais d'en manger de la viande. Juste que j'en avais plus envie. Il faut croire que ça leur a suffi. En fait, ces sujets-là, je leur en parle pas. Ou alors très peu. Parce que je ne sais pas comment évoquer l'urgence climatique sans leur raconter les ours agonisants, les gigantesques incendies en Australie ou les violentes tempêtes. Sans leur prédire un avenir douloureux.
Les escaliers et un avion. Palier. Si vous voulez y monter,
ça coûte cher un avion? Oui, très cher.
Combien?
Bah, j'ai aucune idée. Énormément.
Millions?
Bah oui, des millions, des milliards, j'en sais rien moi. T'aimes bien les avions?
Moi, j'appelais.
Faut pas en prendre trop souvent.
Ma
maison
est en carton.
Vous savez pas pourquoi faut pas prendre l'avion trop souvent, ni l'un ni l'autre?
Non.
Une petite idée. Qu'est-ce que ça fait l'avion? Ça
fait vomir.
Non mais bon, d'accord, mais sinon. Ça.
On malade de.
Qu'est-ce que ça fait la voiture?
Pollue.
Eh ben l'avion ça pollue encore plus que la voiture. Donc faut faire très attention, faut pas le prendre souvent.
Faut pas le prendre tous les jours. Mais si.
Ça pompe pote.
J'ai des amis qui sont beaucoup, beaucoup plus vertueux que nous. Ils ont déménagé en Bourgogne il y a 5 ans. Ils s'appellent Anne et Florent. Anne était journaliste, elle est devenue instite. Florent est créateur de jeux vidéo.
Hello.
Ils habitent dans un petit hameau avec leurs deux filles de 4 et 8 ans.
Ouais,
parce que nous on a qu'un super prime.
C'est pas du tout intéressant économiquement, mais par contre, environnementalement, c'est quand même beaucoup plus.
L'été, souvent, Anne et Florent nous laissent leur maison quand ils sont absents. À chaque fois que j'y vais, je regarde admirative les shampoings secs et le compost, les chaussures made in France et le poêle à bois. Cette fois-ci, on est mi-septembre.
Je range le bois.
Pour l'hiver.
Ouais. Il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Non, en fait, ça va.
Et du coup, ton potager, t'as laissé tomber pour cette année-là?
Oh, bah, de toute façon, là, c'est plus la saison maintenant.
C'est une grande maison de pierre, avec un jardin en pente. Un potager où poussent au printemps des courgettes, des tomates, des potirons. Et pour l'arroser, de l'eau de pluie, récoltée dans de grandes citernes installées contre un mur.
J'ai rajouté deux citernes, là. Et deux fois 300 litres. Donc, je me sens plus équipé.
Et les panneaux, vous allez les mettre où?
Eh ben, on voudrait les mettre là-haut. Parce qu'en fait, ça, c'est plein sud de toi.
Ils n'en finissent pas d'améliorer leur maison, Anne et Florent, pour la rendre plus écolo.
D'ombre des arbres alentour.
Et leurs filles ont l'air d'avoir bien compris l'enjeu. À l'intérieur, sur les murs, il y a des petites phrases scotchées un peu partout. Dans l'entrée, une étiquette précise que la marche à pied, c'est le pied. Au-dessus de la chasse d'eau, il y a « Ces toilettes respectent la planète ». Dans la salle de bain, pour se faire beau, on ne gaspille pas l'eau. Et dans la cuisine, la viande, un peu ça va, trop bonjour les dégâts. C'est Fanny, l'aînée de la famille, qui les a découpés dans Astrapi et collés au mur. Elle a 6 mois de moins que mon fils, mais sur les questions écologiques, elle a des années d'avance sur lui.
Et toi, tu fais attention un peu au corps?
Oui, je suis plutôt...
T'as vu, c'est qu'on a rien de tout côté.
Attention, parce que... Par exemple, on a des bassines, donc je mets souvent une bassine en dessous du robinet quand je me lave les mains. Et j'éteins le robinet quand je savonne. À la place de tirer la chasse d'eau, on va envie de la bassine. Et du coup, ça sert.
Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu fais?
Par exemple, j'éteins la douche quand je me lave. Et je me lave tout en même temps. Et puis... Ah oui, le tri des poubelles.
Et pourquoi tu crois que c'est important?
Parce qu'on a besoin de la planète, et la planète, elle a besoin de nous. Elle a besoin de nous parce qu'on doit...
En fait, non, on est les gardiens de la planète.
Nous, ce qu'on peut faire pour la planète, c'est recycler, faire attention à l'eau, des choses comme ça. Et la planète, ce qu'elle peut faire pour nous, bah, en échange, elle nous fait vivre, en fait, parce qu'on est sur la planète.
Ouais, c'est important pour moi aussi, là.
Et c'est super important, donc il faut la remercier en faisant attention à elle. Attention au réchauffement climatique, des choses comme ça.
Ah, tu tu sais.
J'ai encore renversé mon bol de cacahuètes.
C'est quoi le réchauffement climatique?
Bah, je sais pas trop comment ça se produit, mais le soleil réchauffe beaucoup la terre en ce moment. Et il faut pas que ça parte du petit insecte, parce que si le petit insecte meurt, le grand va mourir parce qu'il a plus de nourriture, et ainsi de suite jusqu'au plus grand. C'est vrai que ça me fait peur, mais ça m'inquiète un petit peu, parce que il faut qu'on arrête au bon moment, parce que sinon ce sera trop tard. Et quand c'est trop tard,
quand c'est trop tard, c'est trop tard.
Voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire, en fait.
Ici, on se croirait dans la maison de demain. Respectueuse, responsable. Une sorte de famille ricorée, avec sur la table du café bio et de la confiture des fruits du jardin. Le foyer au fond que j'aimerais qu'on soit. Moi, Alex et les enfants.
Ça sent bon en tout cas. Je sais pas ce qui sent bon, mais ça sent bon.
Je fais quenelle.
Ah,
du jardin.
Oui.
Ah mais oui, il vous reste des trucs du jardin en fait.
Le laurier, c'est, si tu veux, c'est...
Il a 100 ans.
Tous les choix qu'on fait... En ce moment, tu vois, on habite à la campagne, tous les choix de rénovation de notre maison, ils ont été faits avec ça en tête. Les voitures qu'on a, parce qu'on est obligé d'avoir une voiture, ce qu'on a mis nulle part, on a pris des voitures avec des tout petits moteurs qui polluent moins. Et ben, le nombre de parents d'élèves, d'autres parents d'élèves qui se sont foutus de ma gueule, parce que j'ai une C1 et que moi je fais 2 mètres de haut et que je sors de ma voiture et qu'ils me disent « Ah bah ça va » et tout. Alors ils sont un peu emmerdés. Ils savent pas si c'est parce qu'on est vraiment pauvre ou si c'est parce qu'on est complètement débile, quoi. Littéralement, ils se disent « Mais ce mec est con, quoi. » Je leur dis systématiquement « Mais pourquoi j'aurais une voiture plus grosse? À quoi ça me servirait ?» Par contre, cette voiture-là, elle émet 90 grammes de CO2 par kilomètre. La tienne, elle en émet 200.
Je me dis qu'avec tout ça, ils doivent se sentir bien dans leur basket, en adéquation avec leurs principes. Mais pour Anne, la préoccupation environnementale est plutôt envahissante.
J'y pense vraiment tout le temps. Je suis enseignante, j'ai une demi-heure de bagnole. La moitié du trajet, je me dis, putain, je suis en train à mort de polluer, je contribue complètement, je suis toute seule dans ma caisse, je vais me faire une heure de bagnole. Vraiment, je suis totalement pas ce que je voudrais être, quoi, là.
En fait, ça fait quelques années qu'elle a basculé dans l'anxiété.
Je suis passée de cette espèce de... torpeur un peu, voilà, à une angoisse prégnante, quoi. Je crois que c'est l'amplification médiatique, avec des voix de chercheurs, de scientifiques, etc., qui me paraissaient fondées, sensées. Il y a aussi cette image de réchauffement, d'être prisonnier du truc, je pense, qui entoure la Terre comme ça, qui fait comme une espèce de bulle qui se resserre comme ça sur nous, comme une espèce d'étau, quoi. Et puis c'est l'inéluctabilité de la chose. C'est vraiment cette espèce de truc qui nous dépasse un peu, qui se passe dans les airs, là-haut, qui est quasi intangible en fait. Et ouais, il y a ce côté un peu puissance supérieure, quoi, inatteignable. Où quand je suis rentrée de vacances, là, c'était grillé, mais il restait mais vraiment rien. Enfin, même les vaches avaient l'air, parce qu'il y a beaucoup d'élevage là dans la région. Elle cherchait des espèces de brindilles. Et effectivement, ça avait un côté désertique et ravagé que j'avais pas connu jusqu'à présent. Ça me déprime, en fait. Ça m'assombrit. En fait, je me lève et je vois ce paysage et je le trouve triste. Et je me dis, c'est triste. Elle est triste, ma campagne. En fait, j'exprime pas souvent cette angoisse. Parce que c'est un côté un peu ridicule. Enfin, ou pas. Mais je ne l'exprime pas aussi parce qu'en fait, ça fait trop peur, quoi. Et ben voilà, quand je me permets d'en parler, ben voilà, c'est dur, en fait. C'est un peu dur.
Moi, au quotidien, je ne suis pas hyper angoissé dans l'absolu. Mais en fait, des fois, je m'arrête et je me dis, mais en fait, pourquoi tu n'es pas angoissé, tu vois? Parce qu'il y a des raisons concrètes de l'être. J'ai eu, il y a 2-3 ans, une espèce de crise de la quarantaine où tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'allais mourir et que c'était peut-être pour bientôt, etc. Et ça m'a un peu secoué. Mais ça a eu un gros avantage, c'est qu'en fait, ça m'a un peu libéré de l'angoisse de ma mort à moi en particulier. Je me dis, maintenant, c'est un truc à peu près admis que ça va arriver un jour ou l'autre et tout. Et donc, si jamais la planète devient un four, même à court terme, je me dis, bon, bah, ça va me tuer, probablement, comme ça tuera beaucoup de gens. Mais c'est pas très grave parce que j'ai un peu fait la paix avec cette possibilité-là. Mais là où c'est beaucoup plus angoissant, c'est pour mes filles, quoi. C'est sûr.
Et pour moi, c'est l'image de conflits épars, divers, variés, de guerres civiles, de guerres pour les ressources, des déplacements de population massifs, etc., qui forcément les impacteront et peut-être violemment, quoi. En fait, c'est ça, moi. Je me dis comment mes filles vont vivre dans cette violence-là. Je les vois retranchées, vivant dans une espèce d'autarcie, une espèce de truc de forêt, de pleine nature, dans lequel elles seraient un peu retranchées. Voilà, elles ont une sorte d'espèce d'exil, un peu à l'écart. Voilà.
On est dans le fantasme, là. Mais parfois, je me dis, est-ce qu'on devrait avoir des armes à la maison, par exemple, tu vois ? C'est une question que je me suis déjà posée, à laquelle aujourd'hui je réponds, mais n'importe quoi, évidemment que non. On a un peu cette dimension bobo, parce qu'on vient de Paris, etc. Oh, mais non, mais les armes, les chasseurs, c'est un truc un peu... Ouais, mais sauf qu'en fait, à un moment, si t'es obligé d'avoir recours à une forme de circuit court extrême qui est de chasser ta propre nourriture, ben en fait, nous, on est dans une position aujourd'hui où on n'a aucune idée de comment ça se passe.
Et le potager, c'est un petit pas vers l'autonomie?
Complètement, c'est complètement ça aussi, ouais, bien sûr. Et quand on voit comme c'est raté, tu vois, je me dis que j'ai dû... Heureusement que c'est pas pour tout de suite la fin du monde, parce que j'ai encore besoin d'un peu d'entraînement, quoi.
Le problème, c'est que... En fait, de la colère, c'est vis-à-vis de moi que j'en ai. Parce que je ne fais rien. Je fais rien du tout, en fait. Et bon, je trie mes déchets, j'achète local, je ne veux plus prendre l'avion, j'achète plus de fringues. Enfin voilà, j'essaye de réduire mon mode de vie au maximum dans ce qu'il a de non essentiel. Et je fais rien qui a un poids.
Si tu trouves ça ridicule, pourquoi tu continues à le faire ?
J'ai un tout petit peu moins mauvaise conscience. Je suis très mal avec l'idée qu'un jour mes filles pourraient se retourner vers moi en disant « Mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que t'as fait pour nous sortir de là ?» J'ai eu un peu cette réflexion en toile de fond vieille mes parents. Génération née juste après la guerre, qui ont profité, voilà, qui voyagent, qui bouffent, qui, qui vivent, qui... Enfin, qui ont consommé, parce qu'on leur a dit aussi qu'il fallait consommer, puis c'était comme ça. Et puis, je trouvais que c'était vraiment une génération d'enfants gâtés, qui avaient fait gaffe à rien et tout. Sauf qu'en fait, eux, à l'époque, ils n'étaient pas conscients de tout ça, ils n'étaient pas au courant de tout ça, ou si peu. Et je me dis, mais en fait, cette réflexion-là, mes filles, elles pourront l'avoir, mais vis-à-vis de moi, et vraiment, parce que moi, je ne pourrais pas me retrancher derrière le fait de vous dire, je ne savais pas, quoi. Parce que moi, je sais pleinement. Et donc, je pourrais toujours leur dire, même si ça n'avait pas beaucoup d'impact, j'ai fait ça. Mais, bon, c'est tellement, tellement léger. Ouais, mon objectif maintenant, c'est de... J'aime pas le terme, mais c'est d'en faire des guerrières, un peu. C'est d'en faire des enfants hyper... hyper politisée, hyper consciente, hyper engagée, ce que je ne suis pas, leur dire maintenant, en fait, vous allez en chier, quoi. Et ben moi, maintenant, je vais essayer au moins de vous aider à être costaud, de vous aider à penser, à vous protéger, et puis à réfléchir pour les autres aussi un peu.
Moi, chaque année qui passe, je suis soulagé en disant au moins, elles sont plus grandes, quoi. Et donc, elles sont peut-être plus armées pour faire face à la situation que quand elles sont toutes petites et plus exposées, plus fragiles et plus et qu'elles dépendent plus de moi. Chaque année, à leurs anniversaires, à un moment, je me dis, moi, c'est une année de plus de passer, quoi, en fait. Une année de plus d'emmagasiner pour elles d'expérience, de force.
Est-ce que, si tu devais imaginer avoir des enfants aujourd'hui, tu te poserais la question ?
Oui, je me poserais la question, c'est sûr. Autant pour Fanny, bon, je me rappelle plus. Et autant, en fait, pour Mao, pour moi, je me suis dit, de toute façon, il faut pas que Fanny soit seule face à ça, en fait. Donc, en fait, le fait d'avoir un enfant, un deuxième enfant, c'était plein de raisons. Et c'était aussi dire... Il va falloir qu'elles s'épaulent, qu'elles se soutiennent. Et c'est bien si elles ne sont pas toutes seules, en fait, quoi.
Ce qu'il nous faudrait, ce serait un engagement. Enfin, c'est un truc qu'on se dit, je ne sais pas si c'est vrai. Mais on aimerait trouver un engagement qui donne du sens à l'énergie qu'on a, à l'énergie du désespoir qu'on a, en fait, qu'on puisse l'investir quelque part. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui est bénéfique, c'est-à-dire qu'on continuerait à penser que c'est la merde, mais au moins, on n'aurait pas de regrets quant à n'avoir rien fait. Mais finalement, quand on est angoissé, c'est quand on a l'impression de ne pas avoir de moyens d'agir sur les choses. Donc, la solution à l'angoisse, c'est pas nécessairement le yoga, le zen, tu vois. Peut-être qu'une réponse à l'angoisse pour certaines personnes, ça peut être la colère et l'envie de tout péter, quoi. Peut-être.
Pourquoi on parle tout le temps d'écologie ? En 1800, il y avait 1 milliard d'hommes sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes environ 7,7 milliards.
Quand je suis rentrée de chez Anne et Florent, cette fois, je me suis dit que j'allais m'y prendre autrement avec mes enfants. Qu'il fallait peut-être commencer par le début. Aborder la question simplement, sans devancer leur peur. Alors j'ai raconté, aussi tranquillement que j'ai pu, les pots d'échappement des voitures, les emballages à éviter, l'eau qui est précieuse. Et ça n'a pas eu l'air de les traumatiser plus que ça.
Les déchets qui vont dans la mer, regarde.
Oh, il y a ça dans cette mer. Dégoûtant.
Et ça, c'est quoi ?
Les voitures.
Qu'est-ce qu'elles font, les voitures ?
Elles font le...
Voilà. Les pots d'échappement des voitures, le chauffage au bois.
Mais c'est pas à cause des enfants, parce que... Oui, c'est pas de leur faute, c'est parce que c'est pas eux qui conduisent les voitures pour l'instant.
Mais il faudra faire attention quand tu seras loin.
Et puis, je me suis dit aussi qu'il fallait que je continue à aller voir comment les autres s'en sortent avec l'effondrement.
Tu vois, il y a des espèces.
Quel choix ils ont fait et quel chemin je pourrais prendre à mon tour pour être plus responsable, pour agir, mais sans angoisser.
Il y en a qui disparaissent à cause des hommes quand il y a des produits. C'est bon, t'es prêt pour faire ça ?
Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak, cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot, dog say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, 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 but there's one sound that no one knows. What does the fox say?
C'était L'effondrement et moi, premier épisode, Paris 42 degrés. Un reportage et une petite série de Karine Lelouette réalisée par Clémence Grosse et mixée par Jean-Louis Deloncle. Merci à Alex, Anne, Florent et leur fille. Merci à Émilie Sarnel pour l'illustration de la série et Antoine Juillose pour la documentation musicale. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur le site de France Culture et avec l'application Radio France. Notre attachée de production, c'est Mélissa Foust, bien sûr, et François Bréus, c'est notre stagiaire. Oui.